les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Sur qui peuvent-ils compter, à qui peuvent-ils se fier avec cette accélération du calendrier en Turquie? À deux mois maintenant, presque exactement, d'élections générales anticipées, une nouvelle opposition vient de se constituer le week-end dernier et la question kurde, le vote kurde pourrait être déterminante. Bonjour Dorothée Schmidt.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous, spécialiste Moyen-Orient et directrice du programme Turquie contemporaine à l'IFRI. Alors, déterminante cette question kurde pour la place de la Turquie dans le conflit syrien. D'abord, parce que c'est dans cette guerre contre les YPG, émanation syrienne du PKK, dont Afrin est un épisode, que se négocie en quelque sorte la capacité d'Ankara à intervenir de manière indépendante, comme elle l'a dit, face aux autres acteurs du conflit syrien. Du côté kurde, déterminante parce qu'en contrôlant 28% du territoire syrien, les forces kurdes ont un certain pouvoir politique à double tranchant, utilisé par la coalition contre l'État islamique. Elles peuvent l'être maintenant par Damas pour contenir la Turquie. Ainsi, les Kurdes opposent des alliés et rapprochent des adversaires qui ne veulent pas être directement confrontés. Enfin, parce que du traitement des Kurdes en Syrie dépend aussi partiellement l'avenir politique en Turquie du président Erdogan et de son parti de l'AKP, puisque même sans leur challenger de 2015, parti à base kurde, mais qui a su séduire bien au-delà là, le HDP aujourd'hui réprimé, eh bien le vote des Kurdes, qui représente 20% de la population, pourrait compter face à un AKP en perte de vitesse. Alors, ces ambitions du HDP là avaient été douchées à l'époque en 2015. Ils avaient quand même réussi à envoyer 79 députés à Ankara. Dorothée Schmidt, ce qui est intéressant, c'est un peu le parallélisme avec la situation d'aujourd'hui, puisque depuis le week-end dernier, on parle d'un nouveau front anti-Erdogan, même si pas complètement kurde.
Je crois qu'il y a une espèce d'ambivalence dans le tout sauf Erdogan, c'est que je crains que ça devienne aussi un tout sauf les Kurdes. Puisqu'on parle des Kurdes aujourd'hui, le paysage s'est tellement radicalisé dans une coupure entre Turcs et Kurdes que aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour les partis qui se mettent ensemble, donc les partis républicains du peuple, les kémalistes, le IE Parti qui est ce nouveau parti issu de la droite nationaliste, et puis le Saadet qui est quand même un parti religieux, c'est très difficile pour eux, je crois, de rallier les Kurdes aujourd'hui. Donc, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on a finalement une configuration qui ressemble un peu à celle de 2015, avec un nouveau parti qui surgit, qui est le IE Parti, qui risque de récupérer d'une espèce d'électorat flottant. Et vous le soulignez bien, les Kurdes en 2015 avaient ratissé plus large que leur base kurde, et le HDP, c'était pas un parti seulement kurde en réalité, c'était un parti de gauche, un nouveau parti de gauche. Mais aujourd'hui, on a une espèce d'inconnu kurde finalement qui pèse sur cette élection en Turquie, parce qu'on pense, beaucoup d'analystes pensent que Erdogan va perdre une partie de son électorat kurde, même cet électorat kurde conservateur qui lui était vraiment acquis depuis le départ, parce qu'aujourd'hui les opérations contre les Kurdes et le langage de criminalisation du PKK débordent sur un peu toute la communauté kurde en Turquie. Donc on a une sorte d'inconnu sur ce vote kurde, on ne sait pas très bien vers qui il va se porter aujourd'hui, et ça pourrait être un facteur important dans l'élection.
Et quel rôle pourrait jouer ce HDP? Alors je le rappelle, donc ce parti qui avait 79 députés, plus que 59 aujourd'hui, 9 députés en prison tout de même, qui a été fortement réprimé ces derniers temps. Il pourrait jouer un rôle mobilisateur ou alors, disons, post-électoral ensuite pour peser quand même?
Alors ça me semble très compliqué de les voir mobiliser vraiment pour les élections. D'abord, on va avoir une campagne qui est très très courte, qui va être extrêmement tendue. Le HDP, c'est un parti qui est absolument épuisé par plus de 2 ans de lutte pied à pied contre l'AKP, qui essaie par tous les moyens d'empêcher ce parti de travailler, qui, comme vous l'avez dit, a mis en prison un certain nombre de députés après avoir fait lever leur immunité par le reste des députés du Parlement. Donc on a un parti qui est épuisé, qui a perdu beaucoup de cadres, qui avait l'avantage de savoir faire du terrain. C'était après l'AKP, finalement, c'était le parti qui faisait le mieux de la politique, le HDP. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout lui qui va être vraiment à la manœuvre. Donc, à mon avis, une partie du vote kurde va se répartir sur les autres partis, et c'est ça qu'on va suivre, oui, en demandant s'il continue à voter ou pas pour Erdogan.
Et dernière chose concernant ce vote kurde, c'est très difficile d'avoir des estimations, mais il y avait un sondage cité par Al-Monitor qui prévoyait une perte de 4 points de la part des supporters kurdes de l'AKP. Est-ce que c'est fiable, ces chiffres-là? Ça veut dire qu'il aurait déçu que 4% des Kurdes, finalement, le président Erdogan?
Si vous voulez, moi je me méfie toujours beaucoup des sondages en Turquie, des sondages déclaratifs de ce type, dans un pays où pendant très longtemps toutes ces identités minoritaires étaient caché par définition, donc on savait pas si on n'avait pas le droit de dire qu'on était kurde. Donc je crois qu'il faut vraiment se méfier de tout ça beaucoup, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment à mon sens une assez forte inconnue.
Oui. Et alors justement au-delà de cette question purement électorale, il y a cette guerre avec le PKK là qui a été relancée en 2015 à la suite d'événements un peu troubles, en tout cas en plein cœur de la guerre syrienne. Aujourd'hui, est-ce que justement ce PKK dont l'entité syrienne les YPG contrôle une partie du nord, on ne se trouve pas finalement confronté à un mur, ce mur Erdogan qui revient à chaque tentative d'établir une autorité politique dans ce nord syrien?
Oui, alors le PKK a un mur qui est posé tout simplement par le fait que c'est un parti de guérilla, c'est une entité militaire et qu'ils ont énormément de mal au passé au politique. Donc on a espéré que cette phase politique, elle avait été mise en marche en 2013 avec le processus de paix déclaré entre l'État turc et les activistes du PKK. Et puis après, on a eu la contamination du conflit syrien qui fait qu'on est reparti complètement dans une logique de guerre. Donc aujourd'hui, on est reparti en arrière du point de vue, je dirais, de la structuration des revendications kurdes. On est repassé au stade militaire. Alors qu'il y a 4 ou 5 ans, on avait justement une sorte de progression vers une phase politique de structuration des Kurdes. Mmh. Et c'est ça qui nous inquiète un peu tous, parce qu'évidemment, on souhaite sortir des conflits, mais qu'on voit pas très bien comment le fait de s'enferrer dans ces logiques de combat et de lutte militaire va permettre de trouver des solutions politiques. Alors peut-être que c'est au Kurdistan irakien que ça se joue, mais le Kurdistan irakien est aussi beaucoup sous pression à l'heure actuelle.
Et alors justement, maintenant, avec un peu de recul, comment est-ce que ça se fait que ces ambitions, et puis cette déclaration qui avait été faite en 2016 d'un Rojava fédéral sur trois cantons, Afrin, Kobané et puis Asaké, si je me trompe pas, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il soit plus d'actualité, d'autant qu'il avait été évoqué un peu comme solution kurde au conflit syrien par les Russes, notamment à l'époque?
En fait, les Kurdes syriens du PYD, qui sont une partie seulement des Kurdes de Syrie, il faut aussi le souligner, parce que tous les Kurdes sont divisés, et que là, on a une partie seulement du paysage kurde en Syrie, ceux-là sont allés très vite, à la fois dans la constitution de ce territoire, jusqu'à arriver à contrôler pratiquement les deux tiers de la frontière turco-syrienne, ce qui a déclenché vraiment le signal d'alarme totalement chez la Turquie. Ouais. Et puis, du point de vue politique, sont allés très vite aussi dans la déclaration d'autonomie de leur canton, la volonté de réunifier les cantons. Et finalement, ont profité de l'espèce de dynamique de désagrégation des États et aussi finalement de l'espèce d'anti-modèle que constituait Daesh. Daesh qui s'impose comme un califat, une sorte de nouvelle forme politique dont personne ne souhaite qu'elle émerge. Et puis en parallèle, on a cette sorte de contre-modèle qui est cette république du Rojava, cette république kurde, qui pourrait être potentiellement un nouvel État dans la région. Mais tout ça est allé trop vite, avec un programme politique qui est quand même assez flou, des structures qui sont extrêmement imprégnées de ce marxiste-léninisme qui est la matrice du PKK et des YPG. Et puis, toutes les alliances opportunistes avec l'ensemble des forces étrangères combattant en Syrie et le régime de Damas. Quand on travaille à la fois avec les Russes, les Américains, les Français, Bachar el-Assad, il y a forcément un moment où il y a des contradictions qui émergent. Et effectivement, à un moment, les Russes ont soutenu les Kurdes, mais à partir du moment où ensuite les Kurdes sont devenus le premier allié des Américains, cette ambivalence, elle était quand même très difficile à gérer sur le moyen terme. Ouais. Mais je pense que malgré tout, les Kurdes de Syrie n'ont pas tout perdu, parce qu'ils ont quand même conquis un énorme territoire, et que même si les Turcs ont décidé de leur faire la guerre à l'ouest en partant d'Afrin, en réalité, là, ça va être un travail extrêmement difficile pour les Turcs de progresser en territoire syrien. Et le PKK se bat sur trois fronts. Il se bat à la fois en Syrie, en Turquie et aussi en Irak.
Mais c'est ça, et les Turcs qui ne veulent pas se confronter aux forces ni américaines ni françaises qui sont positionnées à Manbij. Et puis, vous dites une régression effectivement politique et une remilitarisation de la confrontation, mais quand même dans cette lutte des Kurdes YPG qui ont acquis 28% du territoire syrien. Est-ce que, un peu paradoxalement, leur meilleur allié ou parrain, entre guillemets, aujourd'hui, ça ne va pas être ce régime de Damas avec lequel il va falloir négocier, ou en tout cas que Damas va vouloir négocier avec ces Kurdes qui contrôlent une trop grande partie du territoire?
Mais vous savez que c'est un retour, la boucle est bouclée pratiquement, puisque c'est ce dont on accusait les Kurdes au tout début du conflit syrien, c'était de pactiser avec Bachar el-Assad. Donc ça a été toujours un peu l'atout caché, le joker de Bachar el-Assad, les Kurdes, par beaucoup de moments. Alors effectivement, on a une certaine capacité des mouvements kurdes combattants à gérer le rapport de force et à s'allier de façon opportuniste avec le plus fort dans une configuration locale ou dans une configuration globale, leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais le leadership. Ils ont toujours besoin de cet appui. Ils ne sont jamais réellement autonomes.
Et voilà, sorte de paradoxe kurde qu'on développera tout à l'heure avec vous, Ali Fri, lors d'un débat qui commencera à 9h30. J'y convie nos auditeurs, Dorothée Schmitt, on y sera avec le journaliste Alan Caval et le chercheur Adel Bakawan.